Accueillons maintenant Philippe Quentin aux amateurs de sport. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Alors, je devine que tu n'es pas très affecté par la décision conjointe du syndicat des joueurs et de la Ligue nationale d'annuler l'idée de présenter une Coupe du monde de hockey en 2020.
Pourquoi? Pas du tout. Je n'ai pas aimé la Coupe du monde de 2016 à Toronto. J'ai été là pour une grande partie du tournoi jusqu'à la finale. Et pour moi, c'est un concept qui ne fonctionne pas. Et au-delà de ça, ça me choque que les joueurs et la direction de la Ligue nationale participent à des tournois, organisent un tournoi comme celui-là, alors que la direction de la Ligue refuse d'aller aux Jeux olympiques, qui est la compétition prestigieuse par excellence. Mais commençons par le début. Oui. Moi, Mario, je vois des problèmes majeurs avec une Coupe du monde au mois de septembre. Je sais qu'il y a déjà eu des Coupes du Canada dans le passé, puis tout ça, puis que ça a été très excitant. Mais il en reste pas moins qu'en septembre, là, les joueurs de hockey, même s'ils sont beaucoup plus en forme qu'il y a 25 ans, qu'ils se tiennent plus en forme pendant l'été, puis qu'ils arrivent au camp d'entraînement en bien meilleure forme, il en reste pas moins que ce n'est pas la forme du mois de février, la forme du mois de mars. On le sait tous qu'une saison prend son envol, que le rythme augmente continuellement. Alors, quand tu fais une Coupe du monde, à ce moment-là, les joueurs ont la forme des camps d'entraînement. Et ça, pour moi, en partant, c'est un problème. Problème numéro 2, c'est qu'en 2016, l'intérêt était tellement suspect que Gary Bettman et l'Association des joueurs ont décidé de jouer tous les matchs à Toronto. Il n'y a eu aucun autre match régulier du tournoi ailleurs. Ils ne voulaient pas aller à Chicago, ils ne voulaient pas aller à Détroit, ils ne voulaient pas aller à Montréal. Les États-Unis ont été écartés d'office, les destinations américaines, parce qu'en septembre, on sait bien, c'est le dernier droit des courses au championnat dans le baseball majeur. La NFL vient de prendre son envol, le football collégial. Bref, ils savaient fort bien qu'il n'y aurait pas d'intérêt.
Les billets coûtaient une fortune, Philippe, rappelle-toi, moi aussi, j'étais là, c'était vraiment cher.
C'était très cher, et puis ils ont eu un petit peu d'ennui à les vendre, même si ça a été, bon, compte tenu de l'ampleur du marché de Toronto, quand même un succès commercial. Mais moi, je trouve que c'est un tournoi qui était mal bâti. Quand tu penses qu'on appelait ça la Coupe du monde de hockey, puis il y a deux équipes, c'était même pas des pays. Là. C'est des pays qui ont été inventés par Gary Bettman. Le pays des Américains et des Canadiens de 23 ans et moins, ça c'était une équipe, et le pays d'Europe, alors où on regroupait tous les joueurs qui faisaient pas partie de la Suède, de la Finlande, de la Russie et de la République tchèque. Alors, tu sais, c'était un tournoi qui avait un aspect mercantile qui était très clair. Je lisais aujourd'hui des commentaires des joueurs. Je dois t'avouer que j'étais quand même un peu surpris. Je voyais Austin Matthews et John Tavares sur Sportsnet qui disaient que ça leur faisait énormément de peine qu'il n'y ait pas de Coupe du monde de hockey en 2020. Matthews disait que lui, il avait adoré l'expérience. Mais moi, je trouve que c'est un concept qui me laisse un peu mal à l'aise. Et ce qui me choque davantage, c'est le fait qu'on en parle alors que une participation aux Jeux olympiques, pour l'instant, demeure exclue. On verra bien sûr ce que les négociations en vue de renouveler la convention collective, on verra où ça nous mènera parce qu'on sait que ça va être carrément une demande des joueurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je trouve que dans toute sa stratégie internationale de hockey, la Ligue nationale de hockey s'est moquée des partisans. Les partisans voulaient voir les meilleurs joueurs aux Jeux olympiques. Ça a été très décevant de ne pas les voir à Pyeongchang l'an dernier. Je comprends que les joueurs qui étaient là ont fait de leur mieux pour présenter un tournoi intéressant, mais ça n'avait pas la même saveur, c'était pas la même chose. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont été déçus de ne pas avoir la chance de participer à ces Jeux olympiques-là, parce que, Mario, quand tu penses à ça, là, en 2018, il y a un paquet de joueurs qui auraient pu se qualifier pour leurs équipes nationales, mais ils n'ont pas eu cette chance-là, parce que la Ligue nationale n'est pas allée, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir une place en 2022. Là. Il va y avoir d'autres joueurs qui vont arriver, qui vont devenir meilleurs, une nouvelle génération. Alors, il y a des joueurs qui auront raté leur chance d'aller jouer aux Jeux olympiques. Chance que tous leurs prédécesseurs ont eu depuis 1998, et moi, je trouve ça dommage.
Même si les jeunes ont été la sensation de la Coupe du monde de 2016, je te rejoins par rapport au fait qu'au point de vue identitaire, là, d'avoir des équipes qui ne représentent pas un pays, j'ai trouvé que ça faisait ordinaire. Mais je vais te dire d'autre part que je me réjouis pas du fait que ça n'aura pas lieu parce que je déplore, puis je me rappelle encore avec quel intérêt je regardais les Coupes Canada du temps où nous étions un petit peu plus jeunes, Philippe. Et probablement toi comme moi, puis c'est encore vrai aujourd'hui, peut-être pas autant quand j'étais jeune, mais pour moi, la possibilité, peu importe où c'est situé dans le calendrier, de voir les meilleurs joueurs au monde s'affronter, ça a toujours été comme un buffet, une dégustation, appelle ça comme tu veux. C'est quelque chose de rare. Et en plus que la Ligue ait refusé d'avoir participé aux derniers Jeux olympiques, ça crée encore un effet de rareté. Il y a toujours eu cet effet de rareté-là. Ça a toujours été difficile. On remonte, là, il y a eu la série du siècle en 72. Après ça, il y a eu l'AMH qui a envoyé ses étoiles en 74. Il y a eu la Coupe Canada en 76, à mon avis, a peut-être été la meilleure avec 87, quand on se souvient du duo Lemieux-Gretzky. Mais les grands classiques internationaux, il n'y en a pas eu tant que ça. La première aventure des professionnels aux Olympiques, c'est les Tchèques qui gagnent avec la moitié d'un club amateur. Alors moi, je cherche encore le prochain grand rendez-vous qui va nous faire saliver dans la vie, là.
Moi, je pense qu'il y a quand même eu des matchs intéressants aux Jeux olympiques, là, au fil des années. Souviens-toi du match de la médaille d'or Canada-États-Unis à Vancouver en 2010 avec le but en or de Sidney Crosby. Ça a été du grand spectacle. Mais
quand c'est aux Olympiques, c'est sûr que ça remplit la mission. Je ne voulais pas t'interrompre.
Non, OK. Tu parles plus des Coupes du monde, évidemment. Mais je pense que le côté mystérieux de ces affrontements-là est disparu.
Ça,
quand on parle
vrai.
De la Coupe Canada de 76 ou la Série du siècle en 72, ou même la Coupe Canada de 87, on les connaissait encore mal, les joueurs soviétiques. Ils arrivaient là, ils faisaient partie de l'URSS, c'était enveloppé de mystère. On savait tous que c'était pas vraiment des amateurs, c'était des professionnels déguisés.
On les épiait comme des martiens.
Ouais, exactement. Et là, aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Alors, je pense que cette partie de mystère étant évaporée, ça diminue peut-être un peu l'intérêt, mais cet intérêt-là, quand ça se passe dans le cadre d'une confrontation olympique, à mon avis, ça renaît.
Ah oui.
Parce que là, ça s'inscrit dans quelque chose de plus gros. Puis moi, ce que j'ai toujours apprécié des Jeux olympiques, là, quand tu voyais les joueurs de l'équipe de hockey du Canada à Sochi en 2014, de l'équipe masculine, aller en groupe encourager les matchs de l'équipe féminine de hockey dans le même tournoi, je trouvais ça beau. Quand les joueurs racontaient que au village des athlètes, ils faisaient toutes sortes de rencontres avec des athlètes de d'autres sports qu'ils n'auraient jamais pensé rencontrer auparavant, il y a cette espèce de magie olympique-là qui opère. Que moi, je trouvais assez intéressante. Puis quand on pense à l'impact que ça peut avoir dans une carrière, je crois que c'est phénoménal. Et je vais te donner un exemple très concret, c'est celui de Carey Price. Pour moi, Carey Price est devenu Carey Price après son expérience ou durant son expérience de Sochi en 2014. Là, il s'est retrouvé tête d'affiche dans une équipe extrêmement douée. Tous les joueurs étaient d'accord, toutes les vedettes de la Ligue, que ce soit Jonathan Tate, Sidney Crosby, étaient d'accord pour que ce soit lui le gardien numéro un. Il a été choisi par Mike Babcock. Ça lui a donné une confiance en lui extraordinaire. Souviens-toi, là, on avait encore un peu de doute à propos de son approche à Carey Price, puis comment il gérait la pression et tout et tout. Puis là, ça a été pour lui une expérience transformatrice. D'ailleurs, il a connu et de loin sa meilleure saison dans la Ligue nationale la saison suivante. Et en revenant des Jeux olympiques, souviens-toi du parcours du Canadien en séries éliminatoires jusqu'en demi-finale de la Coupe Stanley. Price a été magique et moi, je suis convaincu encore aujourd'hui que un élément clé dans son développement, ça a été les Jeux olympiques. Alors, si ça a été bon pour lui, c'est certainement vrai pour d'autres joueurs aussi. Alors, c'est ça que je trouve dommage dans le fait qu'il ne participe pas.
Donc, le prochain grand rendez-vous international, ça sera peut-être les prochains Jeux olympiques. Puis si ça zigonne comme ça zigonnait dans le cas du dernier dossier, on risque d'attendre longtemps avant d'avoir la réponse définitive.
Ouais, mais là, cette fois-ci, Mario, les joueurs ne se feront pas avoir. La dernière fois, lors de la dernière convention, de la négociation de la convention collective, ils n'ont pas exigé la participation aux Jeux olympiques dans la convention collective. Ils se sont entendus avec la direction de la Ligue nationale pour établir des stratégies communes visant les rencontres internationales. Mais il n'y avait pas d'engagement plus ferme que celui-là. Alors là, cette fois-ci...
Tu penses que ça va être dans le deal, comme on dit?
Oui, c'est certain que ça va être dans le deal. C'est certain. En tout cas, à moins, évidemment. Souvent, des partis vont abandonner dans le dernier sprint de négociation. Mm-hmm. Chaque parti abandonne une demande, là, puis on verra jusqu'à quel point, comment ces négociations-là vont se dérouler. Mais moi, j'ai l'impression que les joueurs y tiennent vraiment. Souviens-toi, toutes les vedettes de la Ligue, ou à peu près, se sont prononcées en faveur d'une participation aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Et la Ligue a dit non. Et ça me fait toujours sourire parce que tu sais, quand la Ligue nationale et Gary Bettman disent « Nos joueurs, ce sont nos partenaires, on travaille ensemble. »
Est-ce qu'ils accepteraient de jouer 76 matchs dans une saison? Parce que, tu sais, là, avec leur semaine de vacances, rajoute les Olympiques, ça n'a plus d'allure non plus. C'est la difficulté.
Oui, mais on l'a fait en 98, on l'a fait en 2002.
Mais c'est non sans conséquence quand même. Puis la vitesse du jeu. Regarde un film. On va regarder un film d'un match en 98 ensemble, puis un match en 2018. je serais curieux. Je l'ai pas fait l'exercice, mais je serais curieux de voir à quel point c'est encore plus exigeant pour les athlètes.
Ouais, c'est un fait, mais là, avec une Coupe du Monde, on n'hésite pas du tout à leur faire commencer la saison avec des matchs à très haut tempo dès le 15 septembre.
Oui, oui.
Trois semaines avant le début de la saison. Alors, tu sais, pour.
Je ne le mets pas en opposition à la Coupe du Monde. Je fais juste constater que c'est pas facile d'insérer ça dans un calendrier. Et je veux dire, sans être hyper sensible aux arguments de Batman, c'est pas évident, là. Puis, il y a des équipes qui perdent leurs joueurs pour le reste de la saison. Tu sais, Patrick Roy l'a pas gagné la médaille d'or olympique comparativement à Carey Price. Puis, dans le firmament des grands du hockey, je pense pas qu'on va remettre en question la place de Patrick Roy versus Carey Price non plus, hein.
C'est un excellent point. Puis, souviens-toi de John Tavares à Sochi qui a été blessé.
Exactement.
Et qui a raté le reste de la saison pour les Islanders de New York, une équipe qui avait besoin d'aller en séries éliminatoires. Alors, ça, c'est sûr que ça fait mal. Je te dis pas que c'est tout positif, une participation aux Jeux Olympiques. Je comprends un certain nombre de propriétaires d'être réfractaires à l'idée. Mais c'est que tout à coup, il faut être cohérent dans le discours. Quand tu dis comme ligue, comme direction de ligue, que tes joueurs sont tes partenaires et que tes partenaires veulent y aller aux Jeux Olympiques et que toi, tu dis non, tant pis pour mes partenaires, ça c'est d'une part. Et d'autre part, quand tu dis qu'on a un respect immense pour le public, là, notre public, là, on l'aime et on veut le soigner, puis le public, lui, il veut une participation aux Jeux Olympiques parce qu'il trouve ça super le fun de voir les joueurs dans un tournoi comme celui-là, puis tu dis non, nous, ça nous intéresse pas. Tu sais, encore une fois, je trouve qu'il y a un manque évident de cohérence dans le discours du côté patronal.
Écoute, c'est une discussion fort intéressante, ce qui veut dire que nos autres sujets prennent officiellement le bord parce que je veux continuer un dernier élément. As-tu eu l'occasion de capter le discours de Gary Bettman lors de son intronisation au Temple de la Renommée récemment à Toronto?
J'en ai lu un compte rendu, mais il n'y a rien qui me vient particulièrement à l'esprit. Qu'est-ce que tu as en tête?
Ben, par rapport à sa prise de position en plein discours d'acceptation face à son opinion sur les conflits du passé, tout en mettant la table pour les négos du futur et les futures expériences internationales. Il n'y a pas bronché. C'est un drôle d'endroit pour le faire, mais il le fait encore.
Ouais, ben, tu sais, c'est un fin politicien, Gary Bettman. Il ne manque pas une tribune pour faire avancer son agenda. Moi, ce que je lui reproche dans sa tactique de négociation, c'est que je trouve que ça fait très vieille école. C'est-à-dire qu'il commence, et ça a été le cas lors de la dernière négociation de la convention collective en 2012, avec des demandes extravagantes. Il sait fort bien que ça n'a pas de bon sens, ça a zéro chance d'être accepté. Mais là, il met la barre très, très haut dans l'espoir que l'autre partie, ben, tout à coup, ça va finir par se rapprocher. Mais moi, je trouve que ce sont de vieilles méthodes de négociation. On faisait ça de même dans les années 70. Il me semble qu'aujourd'hui, là, à une époque
où justement... Je peux pas croire, Philippe.
Écoute, ça serait... Tu sais, lui, là, quand il pense à son héritage, Gary Bettman, puis il dit, bon, c'est vrai, il a transformé la Ligue nationale. La Ligue va être rendue bientôt à 32 équipes. Développement dans le sud des États-Unis. Les revenus sont rendus à 5 milliards de dollars. Quand il a commencé en 93, je me demande si c'était 500 millions. Tu sais, il a fait un développement extraordinaire. Mais à son héritage aussi, n'oublions pas, il y a des conflits de travail. Puis peut-être que celui de 2004-2005, avec le recul, compte tenu que ça a amené le plafond salarial, puis ça a peut-être aidé le hockey à mieux vivre par la suite, c'est peut-être un conflit qui se justifiait. Mais celui de 2012-2013, pour moi, celui-là, il a véritablement été de trop. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire une négociation plus simple et de pas, encore une fois, priver les gens de hockey pendant si longtemps. Mais là, Mario va faire quoi? Là? Gary Bettman...
Le plafond salarial est réglé. Le 50-50 partage des revenus est réglé.
Ben voilà.
Fait il lui-même, il dit qu'il y aura pas, il voit pas d'enjeu qui pourrait faire en sorte qu'il y ait un conflit.
Ben, c'est ça. Mais il répète sur toutes les tribunes que les équipes n'ont jamais si bien été, que les concessions n'ont jamais été aussi fortes. Mais on verra quand les négociations vont commencer. Mais moi, je te prédis qu'il va y avoir un changement de discours. Puis soudainement, on va se mettre à commencer à entendre parler des ennuis financiers des équipes. Puis qu'il y a peut-être une trop grande part de revenus qui va aux joueurs. Moi, je m'attends à ça. J'espère me tromper. Mais s'il y a un autre conflit de travail qui est franchement, comme tu le dis ou tu le laisses entendre, et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas vraiment de raison matérielle pour justifier un nouveau conflit de travail. Ça aussi, ça va faire partie de son héritage et c'est pas nécessairement une bonne chose. Et c'est une des raisons, et je vais boucler la boucle avec ce que tu disais tantôt à propos de son admission au Temple de la Renommée, c'est une raison pour laquelle cette admission au Temple de la Renommée-là de Gary Bettman était nettement prématurée. Un gars qui est encore en plein exercice, dans lequel il y a, sur lequel, dans son héritage, il y a encore des zones grises, que ce soit au niveau niveau des commotions cérébrales, de la façon dont la Ligue nationale a géré tout ça, au niveau des conflits de travail aussi. Pour moi, c'était nettement prématuré. On aurait dû attendre qu'il cesse d'être commissaire de la Ligue nationale, prendre quelques années de recul et là, l'honorer si on trouve toujours que ça le méritait. Et sans doute que ça l'aurait mérité, mais ça aurait été, à mon avis, une bien meilleure conjoncture que là, le gars qui est en plein exercice puis qu'on honore en même temps.
Sur ce, Philippe, un gros merci pour cette bonne jasette. Je te souhaite un beau week-end parce qu'on n'est pas là demain et je sais que tu vas prendre pour les jeunes corps arrière en fin
de
semaine.
Oui, oui, tout à fait.
On pourra s'en reparler la semaine prochaine.
Salut Mario.
Merci Philippe. À bientôt. Après la pause, place à Stéphane Leroux qui, avec nous, va faire l'exercice de voir quels sont les espoirs que le Canadien pourrait se permettre de liquider à la date limite des transactions dans le but de renforcer l'équipe dans l'immédiat. L'équipe de Marc Bergevin, bien sûr. À tout de suite.